nos voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine. Et aujourd'hui, comment l'université broie les jeunes chercheurs? Précarité, harcèlement, loi du silence. C'est une enquête à charge publiée par une jeune chercheuse. Bonjour Adèle Combes.
Bonjour.
C'est le titre de votre livre que je viens de citer. Vous êtes neurobiologiste et votre livre publié aux éditions Autrement connaît quelques bruissements de couloirs dans les milieux feutrés de la recherche universitaire. À partir de centaines de témoignages recueillis, essentiellement de doctorants en thèse, votre livre raconte le sous-financement de la recherche, le système ultra hiérarchisé avec des mandarins tout puissants et surtout la loi du silence sur la précarité des postes, le harcèlement moral ou sexuel et la souffrance des jeunes chercheurs dans les laboratoires, pour ne pas dire le désespoir. Il en résulte un gigantesque gâchis des talents et de la connaissance universelle. Et pour ceux qui se disent que finalement, ça concerne une toute petite partie de la population d'un pays, 15 000 personnes se lancent dans une thèse chaque année en France, c'est pas énorme. Eh bien, je vous rappelle à ceux qui nous écoutent que si demain il n'y avait plus de chercheurs, il n'y aurait plus d'experts sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, dans la presse écrite, les économistes, les sociologues, les historiens, les physiciens, les épidémiologistes. Les chercheurs nourrissent la presse et l'opinion, votre opinion, les voisins, les voisines, sur le monde. Alors n'hésitez pas à intervenir si vous constatez des dérives aussi similaires dans votre pays. Si vous vous sentez concerné par le sujet, vous pouvez nous appeler en direct au 33 7 64 45 51 41. En deuxième partie d'émission, gros plan sur la mobilité étudiante après les confinements de la pandémie. Plus que jamais, depuis 10 ans, les étudiants choisissent de quitter leur pays pour étudier ailleurs, avec toujours les États-Unis et le Royaume-Uni comme destination favorite, malgré le Brexit d'ailleurs. Mais de nouveaux pays aussi offrent désormais de belles opportunités. Et puis en fin d'émission, la chronique habituelle du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Cette chronique est également disponible en podcast « Parents, enfants d'ici et d'ailleurs ». Il nous dira, selon lui, à quoi devrait ressembler le prochain système éducatif dans les pays en développement.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Adèle Combes, vous publiez donc « Comment l'université broie les jeunes chercheurs, précarité, harcèlement, loi du silence » aux éditions Autrement. Vous êtes vous-même titulaire d'un doctorat en neurobiologie et d'entrée de jeu dans votre livre, vous dites « Mes principaux faits d'armes dans la recherche sont l'étude de la maladie de Parkinson chez la souris et le fait surtout d'avoir survécu à 3 années d'enfermement dans une pièce sans fenêtre de 2 mètres sur 2 à observer des rongeurs tourner en rond sans avoir l'autorisation de récupérer les jours de repos travaillés ni d'adapter mes horaires pour voir mon bébé. » Presque tout est dit dans ce témoignage. Alors certes, il y a pire comme enfer sur Terre, mais votre histoire et celle de vos compagnons d'infortune sur la route des souffrances en dit long sur un système qui déraille un peu, beaucoup, cette recherche française.
Elle n'a pas attendu 2021 ou 2017 pour dérailler.
Mais nous, on découvre un peu.
On le découvre. En tout cas, le grand public le découvre. Des dérives, il y en a toujours eu. Ça a toujours été feutré. Dès 98, un livre est sorti, Jeunes chercheurs, souffrance identitaire et désarroi social, n'a pas trouvé d'écho forcément dans les médias. Quand Clarisse Bonneau en a parlé également il y a quelques années, il y a eu un peu plus d'écho, mais finalement il n'y a pas eu un grand changement. Donc oui, il existe des dérives, il existe aussi des choses qui se passent très bien, mais malheureusement quand il y a des dérives, c'est très difficile de faire entendre sa voix.
Alors ça se passe très bien si on est un homme d'un milieu social favorisé. A priori, ça se passe très bien, effectivement. Mais il n'y a pas que des hommes d'un milieu social ultra favorisé en thèse de doctorat. Dieu merci. Les réseaux sociaux sont arrivés depuis la fin des années 90, notamment la page Ciel mon doctorat. Vous avez travaillé à partir d'un questionnaire anonyme. 1800 personnes ont répondu. Et puis des rencontres aussi approfondies avec des jeunes chercheurs et chercheuses. Est-ce que vous-même, par rapport à ce que vous-même vous avez vécu, vous êtes un peu tombé de l'armoire ou pas ?
Au départ, clairement, parce que moi, je vivais un petit peu dans mon monde, je dois bien l'avouer, je pensais que ce que j'observais, ce que je vivais, c'était un cas ultra isolé, la faute a pas de chance, et puis même, je me remettais en question, je me disais, si ça se trouve, c'est ma faute, en fait, il y a un gros syndrome de l'imposteur qui se développe. Et puis ensuite, quand on en sort, ou quand on discute avec des anciens collègues avec qui on n'avait pas eu l'occasion de discuter, on se dit, mais c'est pas un cas si isolé que ça. Et puis quand on va sur les réseaux sociaux, quand on discute avec des collègues qui ont aussi un doctorat ailleurs et qui nous racontent des choses qui font écho vraiment à ce qu'on a pu observer ou alors qui sont très différentes mais qui ont la même conséquence et être source de découragement, être source de souffrance. Finalement, on se dit qu'il y a quelque chose à creuser, oui.
Comment se déroule dans les grandes lignes une carrière universitaire ? Bon, tout le monde connaît Master 1, Master 2, après la licence et après ?
Alors après, il y a le doctorat. Généralement, un contrat doctoral se fait en 3 ans. Ça c'est la théorie, bien sûr plutôt en sciences et techniques, sciences expérimentales ça sera 3-4 ans, en sciences humaines et sociales ça aura tendance à durer un plus longtemps, 4-5, peut-être 6 ans, mais en tout cas en moyenne en France la durée moyenne d'un doctorat est d'environ 4 ans.
Mais le doctorant il est payé pendant ces 4 années ?
Alors c'est un travail mais il n'est pas forcément payé. Et ça, c'est assez surprenant.
Et
mais
pourtant, sa thèse alimente le laboratoire de recherche, l'école doctorale dans laquelle il est.
Ah oui, absolument. C'est un travail. En fait, il y a du travail gratuit qui est demandé à l'université et ça semble poser problème à pas grand monde finalement. Donc oui, on impose du travail gratuit.
Mais il peut être payé.
Il peut être payé, il existe, et d'ailleurs heureusement, il existe des contrats de travail, donc il y a des contrats ministériels qu'on peut passer quand on passe le concours d'une école doctorale. Il y a aussi des contrats avec des entreprises, il y a des contrats qui sont basés sur un financement qu'un chercheur aura obtenu par exemple, donc il existe des contrats. Mais il existe aussi la possibilité de faire un doctorat sans payer le doctorant alors qu'il fournit de la connaissance.
Certains finissent même leur thèse en étant financés par les indemnités chômage.
Et oui, mais d'ailleurs, c'est un problème aussi. Alors ça aide certains qui veulent finir, mais quand on leur demande très clairement de toute façon, ça ne posera pas problème parce que tu n'as qu'à finir sur ton chômage. Donc les personnes doivent utiliser leurs allocations chômage pour finir leurs travaux ou écrire leur article. Et ensuite, quand c'est fini, pour chercher un emploi vraiment à proprement parler, il y a peut-être beaucoup moins d'allocations.
Au-dessus de la tête du doctorant, il y a qui ?
Alors, normalement, il y a, en tout cas d'un point de vue hiérarchique, il y a son directeur de thèse ou sa directrice de thèse. Mais là, dans les faits, quand on signe un contrat, ce n'est pas notre employeur. L'employeur va être normalement soit notre entreprise, en tout cas l'université. A priori, il peut y avoir plusieurs employeurs, mais c'est l'université en théorie qui est l'employeur.
Donc quand vous dites le directeur de thèse, c'est l'encadrant de thèse ?
Oui, ça va être un encadrant.
Et c'est de là d'ailleurs que viennent les faits de harcèlement, la plupart des faits de harcèlement que vous avez recueillis dans les témoignages. Du coup, le doctorant, il est étudiant, il paye des droits d'inscription à l'université, mais en même temps, il travaille. C'est quoi son statut finalement ?
Eh bien, c'est une très très bonne question. En fait, c'est un statut qui est mal défini. Il y a vraiment un no man's land autour de ce statut-là qui fait que c'est à la fois, en tout cas, mettons, si je prends l'exemple d'un doctorant qui est avec un contrat, qui est payé, qui a un contrat, eh bien c'est à la fois un salarié de l'université, mais c'est aussi un étudiant de l'université parce qu'il doit payer des droits d'inscription. Donc en fait, il doit payer pour avoir le droit de travailler.
Mais ça veut dire que quand on vous refusait des jours de congé pour vous, ou qu'on vous refusait de prendre des vacances, des congés d'été indispensables quand même pour la santé, se reposer à un moment donné, vous ne dépendez pas du droit du travail. Vous ne pouvez pas dire, mais le droit du travail m'octroie le droit de prendre des congés dans l'année.
Alors normalement, oui, mais dans les faits, déjà très peu de doctorants le savent. Il faut savoir, il faut connaître ses droits. Quand on rentre en doctorat, il y a des journées d'intégration qui peuvent parler de choses très intéressantes et utiles, hein, je ne dis pas, mais on ne nous présente pas forcément le fait qu'il existe le droit au travail et qu'on n'a pas le droit de nous interdire de prendre des jours de récupération ou qu'on nous interdire des jours de repos il faut en discuter. Parfois, ça tombe juste pas bien. Mais l'interdiction pure et simple, non, n'est pas légale.
Et je dirais même pire dans votre livre, c'est que la souffrance est érigée en système culturel du doctorat. Il y a un directeur de recherche qui dit « En thèse, si tu ne souffres pas, c'est que tu n'as pas une bonne thèse. » Un doctorant qui ne déprime pas n'est pas un bon doctorant. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans votre enquête, 80% des répondants à votre questionnaire déclarent être concernés par une dégradation de leur santé. Comment en est-on arrivé là à ce que la souffrance fasse partie du talent de la thèse? C'est quand même dingue.
Oui, mais je pense qu'il y a vraiment un glissement entre l'excellence intellectuelle qu'on attend, un travail qui est acharné, c'est pas, voilà, un doctorat, c'est pas non plus facile, il y a vraiment, il faut le construire, c'est un projet de recherche, c'est des difficultés intellectuelles à surmonter. Mais je pense clairement qu'il y a un glissement entre cette notion de difficulté intellectuelle et de souffrance. Et puis il y a aussi la notion du mérite. On est dans une culture, il y a beaucoup de cultures comme ça, qui finalement, quoi qu'on fasse, il faut souffrir. Et si plus on aura souffert, plus on aura mérité sa place là. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer et qu'on a vraiment pu me rapporter dans ce milieu universitaire là, qui est pour mériter sa place, jusqu'où. Doit-on souffrir ? En fait, c'est une espèce de reconnaissance symbolique de la souffrance qui serait associée au mérite. Et moi, ce que je dis dans ce livre-là, je ne suis pas du tout la seule à le dire, hein, mais je veux vraiment le montrer, c'est que non, c'est complètement débile de dire ça. C'est uniquement source de souffrance et on va se concentrer sur les mauvaises choses. Au lieu de se concentrer sur un environnement qui est sain, qui motive intellectuellement, parce qu'on se sent respecté, parce qu'on a envie de travailler et qu'on sait qu'on va nous écouter comme un sportif, quoi. Et bien, au lieu de ça, on va dire, ouais, non, il faut que je bosse à fond, peut-être que si vraiment je me fatigue, on va enfin reconnaître mon talent, mais on n'a pas besoin de ça. Sauf que cette culture-là donne cette impression-là. Et moi, je veux dire aux doctorants qui ont cette impression-là, qu'on leur fait croire ça. Mais c'est un mythe, c'est un mirage, et ne croyez pas les gens qui vous disent ça. Même s'ils sont des grands pontes, ne les croyez pas.
Enfermer les doctorants avec deux outils principaux, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Le harcèlement moral concerne 20% des répondants dans votre enquête. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien, ce harcèlement moral, pour des doctorants qui viennent travailler dans un labo de recherche tous les jours ?
Alors, le harcèlement moral, ça peut vraiment prendre plusieurs formes. Il y a plein de livres de psychologues qui approfondissent ça sur la question. Dans la recherche, il y a plusieurs formes. Cela peut être, par exemple, tout simplement, comme on l'a dit, l'interdiction de prendre des congés, ou en tout cas la critique, c'est pas toujours direct, hein. L'impossibilité de récupérer des jours de repos travaillé, ça en fait partie. Mais ça peut être aussi, par exemple, de la discrimination à la parentalité. C'est-à-dire dire à des jeunes femmes, j'espère que tu ne feras pas d'enfant, que tu ne vas pas tomber enceinte pendant ta thèse, souvent sous couvert d'humour, ou dire à des pères aussi, non mais c'est bon, le congé paternité, on n'en a pas vraiment besoin, ta femme elle va s'en occuper. Donc tout ce qui est autour de la parentalité, ça fait partie de harcèlement moral, en tout cas de violence psychologique.
Alors il y a des brimades, des dévalorisations aussi, des jeunes doctorants qui se font voler leurs données, présentées dans un congrès international par l'encadrant de thèse, alors que c'est le doctorant qui a tout fait, par exemple,
bien sûr,
pour récupérer la gloire. 17% des répondants, alors ça semble quand même incroyable, disent que ils ont un budget de recherche pour couvrir leur déplacement dans des conférences, des missions de terrain, et ils disent que ça a été détourné, cet argent, des milliers d'euros, a été détourné par le labo, par l'encadrant, par le directeur de thèse, pour son propre bénéfice, non pas pour son enrichissement personnel, mais pour d'autres choses que la mission de recherche du doctorant.
Oui, et ça, c'est quelque chose qui m'a assez surpris. Typiquement, c'est une question que je n'aurais pas incluse si je n'avais pas eu l'occasion d'échanger en amont avec des personnes que j'ai interviewées. Donc, quand on fait un doctorat, on peut avoir son salaire ou pas, mais il peut y avoir l'attribution d'un financement qui va vraiment être spécifique au déplacement, au congrès. Ça peut arriver, ça peut exister, ça peut arriver. Et parmi ces personnes-là qui ont ce financement, eh bien, il y a 17% qui ont vu, qui n'ont pas eu la main dessus, en fait, qui ont vu ce financement utilisé par quelqu'un d'autre et généralement par l'encadrant de thèse. Donc oui, le problème, c'est aussi qui a la main sur cet argent-là et comment vérifier qu'il est bien utilisé.
Oui, on se demande effectivement qui y a au-dessus du directeur de thèse. Concernant le harcèlement sexuel, les chiffres sont édifiants également. 8% des femmes qui ont répondu à votre questionnaire affirment avoir été harcelées sexuellement durant leur doctorat, principalement par l'encadrant de thèse. 16% des répondants affirment avoir été témoins de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.
Oui. C'est une situation pareille. Moi aussi, ça m'a surpris parce qu'on n'imagine pas forcément, même si c'est loin d'être la majorité, et bien heureusement, on n'imagine pas forcément qu'il puisse se développer ça dans la recherche parce qu'on est entre... Je ne sais pas, on imagine un milieu qui est plutôt bienveillant et qui travaille pour uniquement quelque chose d'assez désintéressé, qui est la connaissance humaine, qui est vraiment désintéressé là. Et c'est ce harcèlement sexuel-là s'intègre aussi dans une culture dans certaines équipes qui est sexiste. Alors, ça ne veut pas, c'est pas parce qu'on est sexiste, bien sûr, qu'on va finir par faire du harcèlement sexuel, ça ne veut pas dire ça, mais il y a une sensibilisation qui est nécessaire, qui doit être faite dans les équipes, qui commence à être faite, et c'est une bonne chose.
Mais pourquoi ? Parce que les directeurs de thèse sont essentiellement des hommes ?
Alors, ça dépend des filières, donc c'est pas forcément essentiellement des hommes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, en tout cas les jeunes femmes qui, les témoignages que moi j'ai pu obtenir concernant le harcèlement sexuel, cela concernait des directeurs hommes, mais dans une bien plus faible proportion, certains hommes doctorants ont subi aussi du harcèlement sexuel.
Une jeune chercheuse dit dans votre livre « On m'a dit que si un chercheur émérite et reconnu dans mon domaine avait apprécié ma communication, donc dans une conférence, c'était sans doute parce qu'il aime bien les petites brunes. »
Oui, ça c'est quelque chose qui est assez... Souvent on dit ça sous le couvert d'humour. Et ce sont des choses qui m'ont été beaucoup rapportées aussi. Ce sexisme un peu, on va dire, classique, comme s'il était intégré en disant bah « oui, t'es mignonne, donc forcément, si on a aimé ta communication, c'est parce que t'es mignonne ». En fait, le problème, c'est qu'il y a une espèce de peine supplémentaire pour les jeunes femmes. Déjà, d'arriver parfois à un poste de doctorante, c'est pas toujours évident. C'est pas évident de se faire reconnaître dans toutes les disciplines en tant que femme. Mais en plus, notre mérite... Et parfois, dénigré parce qu'on considère qu'on a eu les choses uniquement parce que c'est une question de quota, parce que c'est de la discrimination positive ou parce qu'on est mignonne, tout simplement.
Laurine va avoir sa carrière littéralement brisée par son directeur de thèse parce qu'elle refuse de coucher avec lui.
Oui. Oui. Et le problème, c'est que c'est une personne qui est très influente. Et j'ai envie de dire aussi qu'il est toujours en poste. Actuellement, là au moment où on parle, il est en poste.
Dans une université en France.
Dans une université en France, oui.
Briser une carrière, c'est très facile dans une université parce qu'on a l'impression en fait, qu'il n'y a qu'une seule personne qui a un droit de vie et de mort sur vous. Il y a un autre jeune chercheur qui dit son rendu de thèse s'est mal passé. 2 ans plus tard, l'un des membres du jury de ma thèse m'a avoué que mon directeur avait fait pression sur eux pour qu'ils me refusent la mention très bien et m'attribuent la note minimale. Selon lui, il n'aurait pas du tout apprécié le fait que, je cite, une chercheuse qu'il détestait, que je remercie mon co-encadrant, un nazi bien plus que lui. Pour une question d'ego, cet homme a donc sciemment cassé ma carrière de chercheur parce qu'avec une telle mention et un tel adversaire influent dans mon domaine, j'ai été refusée à tous les postes pour lesquels j'ai candidaté en France. On a l'impression que c'est la cour de récréation, mais derrière, ce sont des vies qui sont totalement anéanties.
Bien sûr, bien sûr. Ce témoignage, donc le témoignage d'Axel, date un petit peu plus que les autres, car à cette époque-là, il y avait des mentions. Entre-temps, elles ont été supprimées, mais ça reste extrêmement récent. Donc oui, il peut y avoir... Très clairement, à partir du moment où on a un supérieur qui influence, très généralement le directeur ou la directrice de thèse, pas exclusivement, mais étant donné que beaucoup de choses dans la recherche, malheureusement, passent par le réseau, les collaborations, c'est très facile, oui, de détruire la carrière de quelqu'un.
Ça veut dire que les processus ne sont pas très transparents. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui disent « Ah ben moi, mon directeur de thèse, mon encadrant, me dit en permanence que je lui dois tout ». On a l'impression de se croire au Moyen-Âge. Il y a pourtant des comités de suivi de thèse. Comment ça se fait que le jeune chercheur n'ait aucun moyen d'aller signaler, de se plaindre, de tirer une sonnette d'alarme ?
Alors, ça existe, et les comités de suivi de thèse, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, en tout cas, en théorie, c'est quand même une bonne chose. Et il peut y avoir également des référents dans les universités, il peut y avoir un tuteur, un mentor. Mais dans les faits, le comité de suivi de thèse s'occupe de deux choses. Si je dois vraiment le représenter de façon simple, l'aspect scientifique, c'est-à-dire tous les ans, est-ce que tu as bien avancé sur ton projet, est-ce que tu es bloqué, bon, ben voilà. Mais l'aspect humain aussi. C'est les mêmes personnes qui sont censées s'occuper de l'aspect humain, c'est-à-dire est-ce que tu es stressé, est-ce que ça se passe bien avec ton directeur ou ta directrice. Et là,
c'est l'omerta.
Là, il y a un problème. Parce
c'est l'omerta.
Que, mais c'est l'omerta. En tout cas, à partir du moment où ces personnes-là ont été choisies par votre propre directeur, votre propre directrice, est-ce que vous osez vous confier? Si ça se trouve, ils sont très bien. Si ça se trouve, ils sont complètement bienveillants. Mais comment vous osez le faire? Donc là, il y a un problème. Et en plus, le problème de ça, c'est que ces gens-là ne sont pas forcément formés. Si vous avez un problème lié au stress, même s'il n'y a pas de harcèlement...
Vous voulez dire
à
la gestion des ressources humaines, sont des scientifiques.
Des scientifiques. Alors, il faut avoir la chance. Et en fait, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas juste se baser sur la chance d'avoir une personne qui ait les compétences psychologiques, ressources humaines. Il faut des personnes qui soient formées à ça.
C'est la principale différence entre l'université et l'entreprise où, bien sûr, il y a du harcèlement sexuel et moral dans les entreprises, mais elles sont maintenant assez vigilantes, assez sensibilisées via des directions de ressources humaines. Et puis, il y a le droit du travail derrière, surtout.
Il y a le droit du travail.
Et les syndicats.
Il y a les syndicats, il y a les représentants du personnel, et il y a les prud'hommes.
Là, il n'y a pas de syndicats. Il y a les syndicats de l'enseignement du supérieur, mais qui soutiennent les enseignants en poste.
Après, ça va dépendre vraiment d'un syndicat, mais il peut y avoir un problème. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui vont soutenir les jeunes chercheurs, et heureusement, voilà. Mais étant donné... Enfin, c'est imparfait, en tout cas. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de syndicats spécifiques aux chercheurs non contractuels, qui ne sont pas en poste.
Alors, après la souffrance, après la thèse, que deviennent ces jeunes chercheurs? On en discute avec vous, Adèle Combes. Vous signez « Comment l'université broie les jeunes chercheurs, précarité, harcèlement, loi du silence ». Et on parlera aussi de ce gigantesque gaspillage, parce que ça coûte de l'argent à l'État de former des jeunes chercheurs. Et le résultat est finalement assez décevant.
On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Ou pire, s'amourachent et se fréquentent sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic, on observe. Et ça les énerve, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans le rang, si possible à grands coups de paix.
Tu sais, je vis de petits riens, leur gueule de petits saints. Veulent que moi, le petit singe, je devienne un petit chien. Alors qu'ils se fassent. Le beau donne la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur balle.
Quoi? Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non, désolé, y'a pas de gun sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4 avec des grosses passes dans le coffre, on est ces bêtes à quatre pattes qui font changer les modes. Ouais. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vol. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ils se battent trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco.
C'est le choix de Romain Dubrac pour illustrer notre discussion. Ayam, monnaie de singe, on est en direct avec Adèle Combes, ex-jeune chercheuse qui publie « Comment l'université broie les jeunes chercheurs, précarité, harcèlement, loi du silence ». Votre livre est publié aux éditions Autrement. Il rassemble des centaines de témoignages qui ont été recueillis à partir d'un questionnaire auquel plus de 2000 jeunes chercheurs ont répondu, ce qui prouvait bien qu'il y a eu un engouement pour votre projet, des questionnaires anonymes au démarrage. Et puis ensuite, vous avez rencontré visuellement beaucoup de jeunes chercheurs. Adèle Combes, plusieurs études font état de jeunes chercheurs en souffrance psychologique, pas seulement en France, mais aussi en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine. Il y a quelque chose qui est aux États-Unis, alors qu'il y a beaucoup d'argent pour la recherche, précisément. On ne peut pas dire que ce soit un secteur déshérité comme la recherche française. Alors, comment ça se fait ?
C'est un sujet complexe, clairement, parce qu'autant, effectivement, en France, le financement peut être source de stress, de compétition négative. Autant, comme vous le dites, aux États-Unis, ce n'est pas forcément ça, mais il y a une autre compétition qui est la course à la publication. Il y a la relation qui peut être assez exclusive entre un doctorant, une doctorante et sa direction. La carrière aussi, les postes sont chers. Donc, ça s'intègre quand même dans un environnement qui est ultra compétitif et qui peut finalement dégrader les relations humaines. Mais pour ça, il faudrait vraiment faire des études qui soient vraiment approfondies et qui étudient le lien direct, quelles sont les relations spécifiques entre un mal-être, du harcèlement et ce genre de situation-là. Moi, dans mon livre-là, je ne fais pas cette analyse approfondie. Je fais un état des lieux pour montrer les problèmes.
Et l'ampleur du phénomène,
clairement,
surtout.
Et puis j'appelle aux gens dont c'est l'expertise d'étudier ça.
Quelle proportion de jeunes abandonnent la thèse ?
Alors, en France, il y a des chiffres qui tournent autour de 25%, mais il y a une énorme disparité, une grande disparité entre les sciences et techniques et les sciences humaines et sociales. On sera plus sur du 40% sciences humaines et sociales, mais c'est pas toujours évident de connaître ces chiffres-là, oui.
Et c'est pas forcément évident de connaître les raisons, c'est pas forcément dû au harcèlement moral ou sexuel, non. Mais ça peut être aussi dû à la précarité, au manque de financement. Ceux qui partent dans le secteur privé alimenter la recherche et développement des entreprises, c'est votre cas d'ailleurs maintenant, vous travaillez dans une entreprise privée, Adèle Combes. Pourquoi d'ailleurs ?
Alors déjà, pour manger, hein, c'est déjà une bonne raison. Non, mais plus sérieusement...
Vous étiez chercheuse sur la maladie de Parkinson. Oui. A priori, il y a des besoins dans ce domaine.
Oui, bien sûr. Mais ensuite, il y a le marché, il y a les postes. La difficulté dans la recherche académique, malheureusement, c'est qu'il y a de moins en moins de postes, même en neurosciences, même sur la maladie de Parkinson. Là, je ne vais même pas parler des sciences humaines et sociales, où c'est... très, très, très compliqué. C'est pas impossible, bien sûr, mais c'est compliqué. Moi, personnellement, mais c'est un choix personnel, j'ai décidé que la recherche n'était pas un sacerdoce. Et j'ai décidé de faire quelque chose qui, finalement, m'intéressait peut-être même plus, c'est-à-dire la communication médicale, en tout cas la gestion de projets scientifiques.
Vous êtes neurobiologiste, hein, donc à l'origine. Quelles ont été les réactions officielles des autorités universitaires à cette enquête, qui est largement relayée dans les médias ?
Alors, moi, je n'ai pas eu de réaction, par exemple, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui sera la position la plus officielle qu'on peut trouver. Et ensuite, j'ai pu avoir plusieurs types de réactions. On va dire, si je caricature un petit peu, ce sera une réaction très positive. Des écoles doctorales qui me contactent en disant « nous, ça nous intéresse parce qu'on fait tout pour le bien-être de nos jeunes chercheurs. Et s'il faut agir, nous, on le souhaite. » J'ai des écoles doctorales qui m'ont aussi contacté soit pour parler, c'est-à-dire donner aux jeunes masterants des armes pour mieux comprendre cet univers-là, en leur disant « faites de la recherche, c'est très bien, il ne faut pas fuir la recherche, et ça c'est mon message, ne fuyez pas, mais il faut avoir conscience qu'il peut y avoir des dérives, ça peut arriver, et si ça arrive, il faut pouvoir les identifier. Il faut pouvoir les identifier, savoir à qui faire appel pour être aidé. »
Mais du côté des présidents d'université ?
J'ai eu des réactions négatives et des réactions positives. Certains disent que c'est une très bonne chose de mettre un coup de pied dans la fourmilière. D'autres qui disent que malheureusement, c'est pas comme ça qu'on va avoir de l'attractivité en France. Et pour moi, ça, c'est... Je comprends, hein, je comprends. C'est vrai que le titre du livre est choquant. Il est percutant, en tout cas. Mais le problème, c'est que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on avertit et qu'il ne se passe rien. Donc, à un moment, oui... Il faut un titre percutant, mais au moins on en parle.
Ouais. En tout cas, personne ne nie cette réalité.
Certains la minimisent quand même. Certains la minimisent.
Vous proposez des pistes pour améliorer les conditions de travail des jeunes chercheurs ?
Oui. Sont des pistes qui peuvent être vues aussi partagées par la Confédération des jeunes chercheurs, typiquement.
Il n'a pas beaucoup de pouvoir, hein, cette confédération.
Non, bien sûr, malheureusement. Mais
personne
parce,
ne connaît
fois,
même son existence.
Bien sûr, mais c'est cette problème encore de quand on parle du no man's land juridique du statut de doctorant, c'est aussi, ça entraîne quoi? C'est la difficulté aussi à créer un syndicat des doctorants pour faire entendre sa voix, en tout cas des doctorants, en tout cas des non-titulaires, voilà, des jeunes chercheurs non-titulaires. Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est vraiment structurel, c'est-à-dire comment lutter activement contre le harcèlement moral, sexuel, la discrimination. Et là, ce serait par la refonte du comité de suivi de thèse, par exemple, par l'augmentation du nombre de psychologues du travail, par des formations à tous les chercheurs titulaires, en tout cas les encadrants de formation en éthique scientifique, en pédagogie, et puis en relations humaines, tout simplement, mais aussi créer, voilà, pourquoi pas créer un dispositif comme il existe dans d'autres filières. Je pense bien que le ministère des Armées a créé un dispositif de ce genre, qui est de finalement qui permet de recueillir des témoignages et qui permet de lancer, si nécessaire, des enquêtes internes en cas de harcèlement moral ou sexuel.
Dans tous les témoignages, les enquêtes internes ne sont jamais déclenchées.
Non. Exactement. Et d'ailleurs, quand on le voit, d'ailleurs, Laurine dit bien, moi, j'ai averti la direction de mon université pour des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. En retour, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris une enquête contre moi pour plagiat. Donc oui, alors heureusement, il y a des universités qui vont agir. On voit dans plusieurs villes en France, il se passe des choses. Et merci, ça donne une très bonne image d'ailleurs de ces universités-là. Mais dans les faits, il y a malheureusement des directions d'universités, des directions d'écoles doctorales et d'équipes de recherche qui étouffent les affaires et qui vont même essayer de détruire les jeunes femmes et les jeunes hommes qui auront fait ces démarches-là.
Ouais. Et c'est là où, quand on voit que vous proposez instaurer un questionnaire de satisfaction anonyme pour chaque école doctorale, vu l'état de verrouillage de la parole, c'est peut-être pas pour demain. Vous estimez que le monde de la recherche est en décalage total dans ses pratiques aujourd'hui avec finalement les évolutions actuelles de la société ?
Je pense en tout cas qu'il y a clairement que certaines personnes ne veulent pas avoir ces problèmes-là. Il y a des évolutions, il y a des choses très bien qui se font, par exemple sur les formations, sur l'encadrement de plus en plus. Il y a des efforts qui sont vraiment faits à ce niveau-là, il faut les reconnaître, c'est indéniable. Mais sur les faits, les situations de harcèlement moral ou de conditions, parce que dans certaines équipes, il faut bien savoir que le droit du travail n'existe pas, ou en tout cas n'est pas appliqué. Dans certaines équipes, en France, plusieurs équipes, c'est le cas. Donc oui, clairement, il y a des œillères. Il existe des œillères et souvent au prétexte de l'image, il ne faut pas trop parler des choses pour avoir une bonne image. Moi, je dis, non, il faut arrêter d'avoir ces œillères, c'est clair, ça ne fait pas plaisir. Mais c'est aussi en montrant qu'on agit activement pour lutter contre ça, qu'on va aussi déjà avoir des jeunes chercheurs qui sont heureux de travailler, qui se sentent protégés. Et donc, en conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir ambassadeurs de leur propre université, de leur propre équipe de recherche. Et ça va créer de l'attractivité.
Mais certains pourraient vous répondre que finalement, cette sélection naturelle avec la souffrance au travail et avec des lois du plus fort, c'est très efficace d'une certaine manière pour organiser du tri.
Alors oui, ça trie, ça c'est clair, c'est indéniable, ça trie bien, mais ça trie comment? C'est-à-dire qu'on va, mettre sur le de côté des personnes peut-être qui sont peut-être plus sensibles ou pas, qui ont eu le malheur de tomber sur des dirigeants sans scrupules et qui finalement ce sont des talents qui vont quitter le monde de la recherche, qui ne vont pas qui vont être gâchés au final.
Vous pensez à des exemples précis de jeunes qui ont fait des découvertes intéressantes, entièrement passées sous silence, du fait de cette omerta, de cette domination moyenâgeuse de la hiérarchie universitaire?
Mais on voit bien, par exemple, Laurine, qui obtient des résultats qui sont opposés à son directeur de thèse. Que se passe-t-il? Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de publier. Pour l'empêcher de publier parce que son statut d'expert
reconnu... Elle est spécialiste en géologie.
Elle est en géologie. En géologie. Et d'ailleurs, je reçois actuellement plusieurs témoignages de personnes en géologie en France. Des personnes qui ne sont pas forcément dans les mêmes laboratoires. Mais oui, il se passe quelque chose. Cette personne est toujours en poste. Je ne pense pas que ça soit la même. On ne parle pas forcément de cette même personne. Mais il y a plusieurs personnes en géologie. Je ne veux pas du tout cibler la géo.
Toutes les filières sont touchées, les sciences humaines comme les sciences dures, vous diriez?
Alors, où toutes les filières sont touchées, mais il semble quand même y avoir des, en tout cas des différences. Moi, quand j'ai commencé à stratifier, j'ai pas pu tout mettre dans mon ouvrage. Voilà, je ferai une publication un peu plus académique, un peu plus comme tout le monde l'attend plus tard. Mais je fais des présentations. Mais clairement, si je stratifie par filière, il semble que la biologie santé et la chimie, par exemple, la géologie puissent être plus touchées. Et à l'inverse, il semble que la physique ou les sciences de l'ingénieur soient un peu moins impacté, mais il faut étudier plus en profondeur.
Eh bien, merci. En tout cas, il faut vous lire, Adèle Combes. Comment l'université broie les jeunes chercheurs, précarité, harcèlement, loi du silence, c'est publié aux éditions Autrement. Merci d'être venu chez 7 milliards de voisins.
Merci.
Dans quelques instants, on parle de la mobilité étudiante dans le monde depuis la pandémie avec l'agence Campus France.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Où en est la mobilité des étudiants et l'attractivité de la France pour les étudiants étrangers depuis la pandémie? Pour en parler, nous sommes maintenant en ligne avec Thierry Valentin, directeur général adjoint de Campus France. Bonjour Thierry Valentin.
Bonjour Emmanuel.
Campus France fête ses 10 ans cette année.
Oui, Campus France fête ses 10 ans en tant que Campus France après la réunion de trois agences en 2011. Donc Campus France maintenant, c'est l'opérateur unique du gouvernement français pour tout ce qui est mobilité étudiante étrangère. Promotion, accueil des étudiants, gestion des boursiers étrangers en France.
Alors la pandémie avait donné un coup d'arrêt à la mobilité étudiante vers la France. Aujourd'hui, quel est le rebond ?
On a eu plus de visas délivrés pour des étudiants cette année qu'en 2019. C'est plus cette année qu'avant la pandémie. Donc il y a eu un effet rattrapage. Ce qui s'annonce pour l'année prochaine, c'est sans doute une accélération encore plus forte. Parce que par rapport à 2019, on a déjà 30% de candidatures en plus pour la France qu'en 2019. Donc, plus qu'un rebond, un vrai désir de France.
Et quelle est la place pour les étudiants africains ?
Alors, la place pour les étudiants africains, elle est toujours très grande, hein, puisque les étudiants africains, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, tout confondu, représentent presque 50% des étudiants en France. Et c'est sans doute eux qui augmentent le plus, puisqu'on observe une tendance à une augmentation de près de 40% des candidatures pour l'année prochaine.
Est-ce que, par exemple, les étudiants africains profitent d'un certain vide laissé par l'Asie, du fait des fermetures de frontières et du fait que les étudiants asiatiques se sont moins précipités pour organiser des projets de mobilité ?
Non, de notre point de vue, il n'y a pas d'effet compensation parce que la progression des étudiants africains elle est à peu près équivalente à celle des étudiants européens, à celle des étudiants américains. Donc c'est vrai qu'on a moins d'étudiants asiatiques du fait de la fermeture des pays asiatiques, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui profite aux étudiants africains.
La part des doctorants étrangers a beaucoup augmenté ces 20 dernières années vers la France. La recherche, malgré les faibles budgets qui sont souvent pointés du doigt à l'échelle nationale dans le débat, la recherche séduit encore de jeunes chercheurs étrangers ?
Oui, tout à fait. Il y a presque 50%, un petit peu plus de 40% des doctorants en France qui sont étrangers. Et ça, nécessairement, ils viennent chercher en France des conditions de recherche et qui sont relativement bonnes, des encadrements qui sont de qualité. Et puis, dans le cadre de la nouvelle loi pour la recherche qui est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, il y a eu une très grande revalorisation des contrats doctoraux et des conditions d'accueil aussi des chercheurs étrangers en France. Donc, il y a vraiment des dispositions législatives qui permettent d'accélérer encore ce mouvement.
Et à l'échelle du monde, ces 10 dernières années, comment s'est modifié le paysage de la mobilité mondiale des étudiants ?
Alors le paysage s'est modifié parce qu'il s'est multipolarisé, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres aspects du monde, qu'ils soient économiques, politiques, culturels. C'était un paysage de mobilité étudiante qui était principalement dominé par les pays anglo-saxons et qui l'est toujours, mais dans lequel un certain nombre de nouveaux acteurs sont apparus, hormis les pays européens comme la France, l'Allemagne et la Hollande notamment, hors des pays anglo-saxons, mais il y a eu des nouveaux acteurs comme la Chine, comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, voilà, des pays comme ça, la Malaisie, qui ont commencé à structurer leur propre attractivité et qui ont multipolarisé un petit peu le scénario global.
Et le Royaume-Uni conserve toujours sa deuxième place comme destination mondiale après les États-Unis, mais est-ce que ce pays attire toujours autant de talents européens depuis le Brexit, sachant que du coup les frais d'inscription sont plus élevés maintenant pour les Européens ?
Les chiffres de mobilité étudiante sont toujours des chiffres à moins deux ans, le temps de les consolider, le Brexit est encore récent, mais on sent vraiment une tendance à l'affaissement de la mobilité britannique, qui peut profiter d'ailleurs à d'autres pays européens, la France, la Hollande et l'Allemagne en priorité. Mais il est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir avoir des chiffres concrets. En tout cas, on sent que du côté du gouvernement britannique, il y a une tentative de créer de nouveaux instruments, de nouveaux programmes de bourse pour maintenir une certaine attractivité, notamment en ne faisant plus partie des programmes communautaires de type Erasmus.
La France a perdu sa deuxième place en Europe derrière le Royaume-Uni à l'époque où il y avait le Royaume-Uni. Elle s'est fait rafler cette deuxième place par l'Allemagne.
Oui, alors on est à quelques milliers d'étudiants près. Et puis vous savez, les chiffres, tout dépend comment on compte. La réalité, c'est plutôt pour nous celle des tendances. Hein. On observe qu'en tendance, la France a quand même continué d'attirer beaucoup d'étudiants étrangers sur ces 10 dernières années. On a quand même eu une augmentation de 28% des étudiants étrangers en France. C'est moins que la moyenne internationale, hein, qui était de plus 57%. Mais néanmoins, on maintient quand même les positions et on reste évidemment le premier pays d'accueil francophone dans le monde, ce qui est très important pour nos amis africains.
367 000 étudiants étrangers en France au total. Merci beaucoup Thierry Valentin, directeur général adjoint de Campus France pour ce panorama des étudiants étrangers. Dans quelques instants, la chronique du psychologue sénégalais Ibrahima Girou.
Plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Chez 7 milliards de voisins, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, ce sont des conseils pour vous, les parents, à retrouver d'ailleurs en podcast. Et aujourd'hui, nous sommes avec le psychologue Ibrahima Girou. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Quand un psychologue juge le système éducatif de son pays ou du continent africain, c'est toujours intéressant. À quoi devrait ressembler le prochain système éducatif dans les pays en développement? C'est la question qui vous intéresse en ce moment. Quelles seraient, à vos yeux de psychologue, les réformes nécessaires pour que l'école puisse jouer pleinement son rôle de développement d'un pays?
Emmanuel, disons que quand on regarde les programmes éducatifs en Afrique, depuis le préscolaire, il faut le dire clairement, on est envahi par un sentiment de gâchis.
Du gâchis, et pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique. Hein.
Ben, disons, Emmanuel, un grand gâchis, parce qu'une partie importante de la violence que subissent nos enfants à l'école vient de ce que l'école, notamment en Afrique, ne s'est toujours pas émancipée de la colonisation. On a des maîtres qui dictent les choses et des élèves qui n'ont que des droits résiduels, de petits droits. Du gâchis parce que l'on enseigne à nos tout-petits dans une langue qu'ils ne comprennent pas alors que leurs langues maternelles sont plus adaptées à leurs besoins de développement de manière générale. du gâchis également, Emmanuel, parce que des enfants continuent d'avoir de mauvaises notes, non pas parce qu'ils sont stupides, pardonnez-moi l'expression, mais parce qu'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle ils sont évalués. Du gâchis aussi parce que l'éducation aux valeurs citoyennes, aux règles de la vie sociale, passe mille fois mieux en langue nationale que dans n'importe quelle autre langue étrangère au milieu, Emmanuel.
Et qu'est-ce que vous répondez, Ibrahim Agirou, à ceux qui, y compris parmi les Africains, pensent que l'enseignement dans les langues nationales, notamment en Afrique, est une perte de temps parce qu'à un moment donné, il faudra de toute façon arriver sur la langue française ou la langue anglaise ou la langue portugaise?
Ce n'est pas scientifique ce qu'il donne comme argument. Prenons un exemple très concret de l'apprentissage et du comptage. En Wolof, par exemple, une langue du Sénégal, le jeune Babacar n'a besoin de retenir que 5 unités. Ben, qui veut dire 1, Niar, qui veut dire 2, Niet, qui signifie 3, Nient, qui signifie 4, et Djuroum. Djuroum qui signifie 5. Pour faire 6, on dit Djuroum Ben, c'est-à-dire 5 et 1. Pour faire 7, on dit Djuroum Niar, c'est-à-dire 5 et 2, et ainsi de suite pour aller jusqu'à 10. Donc la base de comptage, elle est très transparente, elle est rigoureuse, elle est régulière. Et les opérations mathématiques commencent très très tôt en Wolof. En français, par exemple, la base de comptage n'est audible qu'à partir de 17. On entend 10 et 7.
Ouais.
Et les opérations commencent très tardivement.
Ouais, parce que pour un enfant, 16, c'est compliqué à comprendre que c'est 10 plus 6. Ça ne s'entend pas comme chez vous en Wolof, avec les 5 unités qui se répètent ensuite.
Vous voyez, donc il n'y a que 5 petites unités à apprendre et les opérations mathématiques commencent. Donc le jeune Africain peut commencer les mathématiques depuis l'âge de 2-3 ans dans sa langue et on lui fait perdre 27 mois s'il doit apprendre dans une autre langue en classe de CP, en cours préparatoire. Et on en arrive à ce que le préscolaire n'est plus une chance en réalité, mais un risque de sous-développement intellectuel et psychologique pour nos enfants.
Alors est-ce qu'il existe, selon vous, des choses simples qui permettent au système éducatif en Afrique d'être plus performant? En principe, dans plusieurs systèmes, on est censé commencer l'école en langue nationale et le français arrivant après, normalement.
Ben disons, il faut qu'il y ait énormément de courage politique pour aller résolument vers les langues nationales. L'idée que l'on ne peut pas enseigner certains concepts dans les langues négro-africaines, ça relève vraiment de la pure fantaisie. La première réforme consiste à créer, à l'instar du Maroc, que je voudrais féliciter, un institut national pour le développement humain. Cet institut serait doté de ressources financières conséquentes et des spécialistes compétents pour proposer un profil ambitieux de ressources humaines, avec des compétences très étendues sur le plan psychologique, moral, technique et managérial. Ça, c'est très important que les pays africains puissent se projeter et dire quel profil ils veulent dans 5 ans, dans 25 ans, par rapport à ce qu'exige le monde aujourd'hui. Enfin, l'école ne doit plus commencer par l'enseignant, Emmanuel. C'est la grande réforme. Il faut que l'école commence par le parent. Les parents sont les premiers éducateurs et il ne fait aucun doute qu'ils donnent aux enfants ce qu'aucun service de l'État, y compris l'école, n'est en mesure de donner en termes de préparation du leadership.
Alors, pour remettre à plat les systèmes éducatifs sur le continent, quelle est la question à méditer, Ibrahim Agirou?
Emmanuel, comment peut-on encore garder la portion congrue aux parents quand ce sont eux qui construisent les fondations de la confiance en soi et du leadership dans les ressources humaines bien avant l'école?
Merci Ibrahim Agirou. Tous ces conseils et ces grandes visions de l'école sur le continent africain sont à retrouver dans notre série de podcasts Parents, enfants d'ici et d'ailleurs sur les plateformes de téléchargement. Et bien sûr, faites suivre, faites connaître, partagez les conseils d'Ibrahim Agirou. Merci aussi au studio à Dakar, Meymouna Diop à la technique, dans le studio de RFI, Mandinkan et Fulfulde. À très bientôt, Ibrahima.
Au revoir, Emmanuel.
Et merci aussi à toute l'équipe, 7 milliards de voisins, Juliette Brault, Elsa Oleizola, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles, bien sûr, en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et demain, 7 milliards de voisins, on rediffuse notre reportage au Bénin, dans la vallée du Sitatunga, pour une autre agriculture, signé Raphaël Constant. Un territoire, réserve naturelle d'oiseaux, protégé des appétits immobiliers aux portes de Cotonou. Mais jusqu'à quand? Ne manquez pas le reportage. À demain. C'est ça.